Chapitre 3 avant la fin.
Cloque se réveilla le lendemain en même temps que son corps endolori. Des images de la veille lui revenaient en mémoire. De manière désordonnée, il vit des scènes de combat, de lutte et des scènes de plaisir d'une violence presque similaire. Dans sa confusion matinale, il lui fallut un moment avant de parvenir à les débrouiller. Il se rappela la jouissance grave et sonore d'Angela, dont le visage n'était éclairé que par les lumières de la nuit. Ses griffes furent acérées dans son dos. Ils avaient fait l'amour avec toute la fougue que peut contenir une première fois. Et ce matin, après une nuit d'une telle intensité, Cloque était crevé. Il posa les yeux à côté de lui. Angela dormait toujours, à demi nue. Il la contempla une seconde et tenta de se lever sans un bruit. Il parvint à se traîner jusqu'à la salle de bain et étudia l'étendue des dégâts. Ce n'était pas aussi moche qu'il le craignait. Sa pommette droite était enflée et portait une petite entaille. Son œil gauche affichait un léger coquard. Quoi qu'il en soit, il ne pouvait pas faire comme si rien ne s'était passé, surtout que son bras était encore très douloureux. Il refit alors son bandage qui n'avait pas résisté aux acrobaties sauvages de la nuit. Il était 10 heures passées. Il décida d'appeler Karl pour lui demander de faire quelques recherches avant de le rejoindre dans un café tranquille du centre. Avec la tête qu'il avait, il préférait éviter d'aller au poste aujourd'hui. Mais il fallait d'abord qu'il rentre chez lui pour prendre une douche et se changer. Dans la chambre, Angela s'était réveillée et fumait une cigarette adossée contre les oreillers, un drap blanc pour seul vêtement. Ils se saluèrent presque timidement.
« Bonjour, dit-elle, tu dois partir ?»«
Oui, j'ai du travail. » « Peut-être peut-on se retrouver ce soir » proposa-t-elle un sourcil levé. « Je risque de finir tard, mais si ça ne te dérange pas, je suis d'accord. »
Dans son esprit, des images de la nuit dernière tournaient encore. « Laisse-moi ton numéro privé. Je pourrai te dire quand j'ai fini au bar, comme ça, et toi, quand tu auras fini ta planque. »
Il acquiesça et lui griffonna les quelques chiffres sur un papier au bord de sa table de nuit. « À plus tard, lui lança-t-il, avant de descendre presque gaiement les escaliers qu'il avait eu tant de mal à monter la veille. » Une heure plus tard, Cloque était assis à une table près de la fenêtre dans le café qu'il avait indiqué à Karl. Il tournait son café de sa main gauche tout en lisant les gros titres du jour. Second meurtre sordide dans l'affaire de l'ananas, elle tue pour une crème de jour.
Karl arriva quelques instants plus tard. « Tu as trouvé ce que je t'ai demandé ?» interrogea l'inspecteur.
Karl fixait Cloque sans rien dire.
« Qu'est-ce qui est arrivé à votre visage et à votre bras » osa-t-il enfin.
Cloque avait presque oublié ses blessures. Il se contenta de répondre. « Rien, longue nuit.
Qu'est-ce que tu as trouvé ?»«
Alors, j'ai bien épluché les disparitions, mais aucune trace d'un kiwi. Par contre, j'ai peut-être trouvé quelque chose dans les rapports d'accident.
Je t'écoute.
Hier après-midi, un homme est venu au poste pour se constituer prisonnier. Il affirmait être coupable de délit de fuite.
Quel rapport ?
C'est que le matin même, il soutenait avoir écrasé un kiwi.
Cloque était soudain plus intéressé.
Mais ce qui est bizarre, c'est qu'une équipe s'est rendue sur place, aucune trace du corps, et personne n'est venu porter plainte depuis.
Ils ont seulement pu récolter un maigre échantillon de chair de kiwi sur le bas-côté.
Karl fixait son supérieur, il semblait en pleine réflexion.
Je sens qu'on n'est plus très loin, lâcha-t-il après quelques minutes.
J'ai un coup de fil à passer, tu as ton ordi ?
Oui, comme vous me l'aviez demandé.
« Alors, tu vas me refaire la même chose, tu m'épluches disparition, rapport d'enquête, d'accident, tout ce qui concernait un fruit qui se serait évaporé dans les dernières 24 heures, ok ?»«
N'importe quel fruit ?»«
Non, on a déjà eu affaire à un ananas, un kiwi, on est sur de l'exotique. Oublie les pommes, poires, signale-moi tout ce qui a un lien avec un fruit tropical, genre mangue, papaye, je sais pas, moi, je suis pas primeur. Renseigne-toi. Les mecs qui ont manigancé les deux autres meurtres vont sûrement pas s'arrêter là. » Si on connaît le prochain fruit, on aura une longueur d'avance.
Cloque le laissa à ses recherches et sortit dans la rue. Ce matin, il avait bien envie d'une cigarette. Il s'en fit offrir une par un passant avant de décrocher son téléphone.
Allô, Madame Saltzman ? Ici l'inspecteur Cloque.
Ah, bonjour, inspecteur. Vous avez du nouveau ? Vous savez qui s'est introduit chez moi ?
Pas tout à fait. Je vous appelle car j'avais une question à vous poser.
Je vous écoute.
Est-ce que le nom de Maxou, le vieux dingue, vous dit quelque chose ?
« Ah non, pas du tout !» affirma la jeune femme étonnée.
L'inspecteur resta pensif quelques instants. Il s'apprêtait presque à raccrocher quand un déclic se produisit dans son esprit. Il fouilla sa mémoire une seconde et ajouta « Et un certain Jimmy Carnico !»«
Monsieur Carnicot ?
Oui, on est en contentieux avec lui pour le rachat de plusieurs de nos boîtes de nuit. Cela va faire plus d'un an qu'il nous tourne autour. J'ai mis mes avocats sur le coup, mais ils me disent qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose. Il fait pression sur moi pour récupérer nos meilleurs clubs de centre-ville.
Très bien, merci. Vous pensez que c'est lui qui est derrière toute cette histoire ? C'est possible ?
Je vous confirmerai ça quand j'en saurai un peu plus. Je vous remercie pour ces précisions, Madame Salzmann. Je serai devant chez vous en fin d'après-midi.
Bien, merci, inspecteur. Au revoir.
Il raccrocha et retourna à l'intérieur. Il était de plus en plus excité.
Bon, les choses se précisent, mon petit Karl. L'héritière vient de me confirmer qu'elle connaît Jimmy Carnicot. Il la harcèle depuis plus d'un an pour prendre la main sur ses boîtes de nuit.
« Jimmy Carnicot, qui est-ce ? » demanda Karl interloqué.
« Tu n'as pas beaucoup de mémoire, on est allé le voir hier. »«
Maxou, le vieux dingue, est Jimmy Carnicot. » ?»«
Oui, tu pensais que c'était son vrai nom ? » ?»«
Méfie-toi des surnoms, Karl, ils sont souvent trompeurs. »
Karl hocha la tête de manière énergique et, prenant son calepin, remplit un nombre de pages sans commune mesure avec la simplicité du conseil qui venait de lui être donné.
Cloque le toisa d'un regard là avant de relire ses propres notes.
« Cette info nous donne ce qui nous manquait, reprit-il. Si on résume la situation, nous avons, d'un côté, une riche héritière clairement fruistique, descendante d'un despote sanguinaire, d'un autre, une militante acharnée pour le droit des fruits, nouvellement fiancée à un truand du monde de la nuit qui s'est rangé dans le fruit, par amour, mais surtout par appât du gain. Tu me suis ?» Karl suivait les yeux grands ouverts.
Nous avons déjà écarté l'héritière, car il est clair que toute cette histoire ne lui profite en rien.
Il nous reste donc le couple diabolique. En vérité, il n'y a que Jimmy Carnicot dans cette histoire qui a les connexions nécessaires pour monter un tel plan. Il nous faut quelqu'un qui a assez de gars sous la main dans cette ville pour pouvoir ramasser les cadavres qui traînent. Parce que le second point important est là. On ne cherche pas un tueur sans cœur, massacreur de fruits. On cherche quelqu'un qui a assez de respect pour eux pour se servir de fruits tués par accident et orchestrer de faux meurtres pour mettre à mal la descendante d'un dictateur. C'est là qu'Elivie Brunstein, l'activiste forcené, entre en jeu.
« Alors les coupables, ce seraient eux ?» demanda timidement Karl.
« Très probablement oui, mais ce que je ne comprenais pas jusqu'à maintenant, c'était pourquoi le vieux dingue était allé se foutre dans un tel bourbier. » Même s'il est soi-disant amoureux, ça cadre pas. On parle quand même d'une affaire compliquée, médiatisée de surcroît, qui pourrait très bien le faire tomber à la moindre bourde. Non, il fallait qu'il y ait autre chose.
Le premier motif est bien sûr politique. C'est un acte de dénonciation pour la continuité des agissements de la Ligue des droits des fruits. Ça m'étonnerait pas qu'il ait offert cette machination à sa chère Elivie comme cadeau de fiançailles. Mais malgré ce qu'il prétend, je doute qu'il en ait vraiment quelque chose à faire des fruits.
Non, le second motif est bien plus terre-à-terre. Il a vu là le moyen de frapper fort, d'intimider une bonne fois pour toutes Madame Salzmann et de mettre la main sur ses boîtes de nuit.
Je suis à peu près sûr que ce sont les dernières qui lui manquent dans cette ville. Si elle les lui vend, il sera alors le grand patron de la vie nocturne et il n'aura plus aucune concurrence. Il pourra imposer sa loi.
Karl tentait comme il pouvait de cacher son étonnement.
« Mais vous êtes sûr, patron ? On était au club hier, avec eux, quand le second faux meurtre a eu lieu. »«
Ouais, bien pratique encore une fois, et c'est ce qui ne va pas nous faciliter la tâche. Réfléchis, Karl. Maxou a toute une famille de petits truands à ses côtés. Ce n'est pas lui qui va faire le sale boulot, et il le laissera encore moins à faire à sa future femme.
Non, il a sûrement demandé à l'une de ses petites mains de s'occuper de ça, exactement comme il l'a fait hier soir. » En m'envoyant trois de ces gars pour me refaire le portrait.
« Comment ? Vous vous êtes fait agresser, chef ?»«
Oui, mais ce n'est pas le problème. Le problème va être de les faire tomber. Et pour ça, notre seule chance est de coincer le gars qui viendra ce soir à la villa pour déposer le troisième cadavre et le faire parler. »«
Ok, patron, je vous suis !» assura Karl, qui semblait chamboulé par toutes ces révélations.
« Prends-nous de quoi boire et manger pour la planque. On se retrouve là-bas à 17h. »
Cloque paya l'addition et sortit du café sans se retourner.